Alors, je ne sais pas si vous avez été frappé comme moi ces derniers mois, mais aussi ces dernières années, par le nombre de reportages qu'on voit sur la nature, sur les animaux, sur les végétaux, les plantes, etc. Et puis, on voit aussi des films magnifiques ces dernières années. Vous avez vu, bien sûr, l'inoubliable Home, mais vous avez vu peut-être aussi Microcosme, Le peuple migrateur, La marche de l'empereur, La planète bleue. Voilà, c'est magnifique, extraordinaire. Qui n'est pas émerveillé en contemplant le ciel, la voûte étoilée, un coucher de soleil, une vue sur la montagne enneigée, tout simplement peut-être le givre qui se forme sur vos vitres en ce moment. Que l'on se penche sur l'immensité de l'univers, ou bien avec ces millions de galaxies qui s'éloignent les unes des autres à des vitesses folles, en envoyant dans le cosmos des ondes électromagnétiques dans tous les domaines, l'ultraviolet, l'infrarouge, les ondes radio, ou bien alors, dans l'infiniment petit, quand on se tourne vers cette faune de particules plus ou moins massives, plus ou moins chargées, plus ou moins colorées. Le monde des cellules, l'émerveillement se poursuit avec le code génétique qui concrétise la si grande diversité des espèces vivant sur notre planète. Et de façon paradoxale, cet émerveillement que nous voyons bien autour de nous, aussi chez nos voisins, chez nos contemporains, ça peut conduire à s'émerveiller et à reconnaître le pouvoir d'un Dieu créateur, ou à le rejeter, au contraire, sous prétexte qu'on n'a pas besoin de lui pour faire de la science et pour étudier les phénomènes. Alors, nous avons reçu, il n'y a pas longtemps chez nous, quelqu'un qui avait assisté au culte, voilà, et puis qui s'est présenté d'ailleurs à la fin du culte, et puis qui nous a parlé de son témoignage. Elle nous a parlé de son cheminement spirituel. Rapidement, en quelques mots, née dans une famille catholique, elle avait fait des études de biologie jusqu'à préparer et soutenir une thèse. Et au cours de ces études, elle a pensé que, au fond, la foi n'avait pas de sens, puisque justement, on pouvait étudier le monde sans se préoccuper de Dieu. Et elle a abandonné la foi de son éducation jusqu'au jour où elle a découvert qu'Einstein était croyant. Alors, pour elle, tout s'est déconstruit. Son château de cartes s'est écroulé. Ah oui, il y a des scientifiques et des très bons scientifiques qui sont croyants. Bon, alors croyants, on précisera tout à l'heure. Mais c'était important. Au fond, c'est donc pas si farfelu de croire qu'il existe un Dieu, que Dieu existe. Et elle s'est remise à chercher. Elle a trouvé la foi. Elle a trouvé une foi personnelle en un Dieu qui se révèle dans la Bible. Alors, précisons quand même, Einstein n'était pas chrétien, ne se disait pas chrétien. Voilà. Il était, si on veut, déiste. Il pensait qu'il y avait une force derrière l'univers qu'il découvrait. Alors, je voudrais simplement, en quelques minutes, et c'est un défi que je relève avec beaucoup de crainte, évidemment, parler du rapport difficile entre la Bible et la science. Voilà. Je suis professeur de physique-chimie, comme vous le savez, et c'est forcément une question qui me turlupine, mais depuis longtemps, à laquelle je réfléchis depuis longtemps. Alors, je vous propose de nous tourner vers le texte de la Genèse. Alors, ça aussi, c'est un défi énorme, évidemment. Bon. On va lire les 13 premiers versets. Je vais demander à Sébastien de venir nous lire le début de ce texte de Genèse 1.
Donc nous lisons dans Genèse 1, les 13 premiers versets. « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors, « Que la lumière soit. » Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, puis un matin. Ce fut le premier jour. Et Dieu dit, qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer. Dieu fit l'étendue. Il sépara les eaux d'en dessous de l'étendue d'eau des eaux d'au-dessus, et ce fut ainsi. Dieu appela cette étendue ciel. Il y eut un soir, puis un matin. Ce fut le deuxième jour. Et Dieu dit, « Je veux que les eaux d'au-dessous du ciel se rassemblent en un seul endroit, afin que la terre ferme paraisse. » Et ce fut ainsi. Dieu appela terre la terre ferme, et mer l'amas des eaux. Et Dieu vit que c'était bon. Et Dieu dit, « Que la terre se recouvre de verdure, d'herbe, portant sa semence, et d'arbres fruitiers produisant du fruit selon leur sorte, portant chacun sa semence partout sur la terre. Et ce fut ainsi. La terre fit germer de la verdure, de l'herbe portant sa semence selon sa sorte, et des arbres produisant du fruit selon leur sorte, portant chacun sa semence. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, puis un matin, et ce fut le troisième jour.
Merci. Alors, dans ce texte que nous connaissons tous, que nous avons lu, que nous avons entendu, qui sonne familier à nos oreilles, il faut bien admettre qu'il y a de nombreuses interprétations et que dans l'Église chrétienne, en général, on n'a pas toujours la même façon de l'interpréter, bien sûr. Alors, il faut bien comprendre que voilà, ce n'est pas pour autant qu'il va falloir se disputer sur les interprétations, se séparer, se diviser. Ce n'est pas une question essentielle, sans doute, l'interprétation de ce texte de la Genèse. Ça reste, je pense, une question secondaire. Mais c'est quand même intéressant de savoir voilà, qu'est-ce qu'on peut en penser et qu'est-ce qu'on peut retirer surtout, quel est le message fondamental de ce texte. Alors, sans entrer dans le détail de toutes les interprétations, je crois qu'on peut en distinguer trois principales dont je voudrais parler maintenant. Alors, il y a d'abord cette lecture littérale, qui a d'ailleurs été celle qui a prévalu pendant des siècles, voire des millénaires, jusqu'au 18e, 17e un peu, 18e et surtout 19e siècle. C'est la lecture littérale qui consiste à penser que Dieu a effectivement créé le monde en 6 jours et qu'il s'est reposé le 7e. Voilà, la création en 6 jours, comme il est dit de façon précise dans le texte, premier jour, il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour, il y eut un soir, il y eut un matin. Alors évidemment, cette interprétation a été violemment contestée et critiquée avec le développement de la science, et en particulier quand on a commencé à chercher à déterminer l'âge de la Terre par un certain nombre de méthodes scientifiques très élaborées. Et actuellement, on donne comme âge de la Terre à peu près 4,5 milliards d'années, donc ça n'a pas grand-chose à voir avec cette création en 6 jours. Surtout si on rajoute les différentes généalogies qu'on trouve dans les textes bibliques et qui la situeraient plutôt autour de 6000 ans pour l'ancienneté de la Terre. Alors, il y a des partisans de cette interprétation, on les appelle les créationnistes, par exemple, mais je pense que ce n'est pas un bon mot, parce que les autres aussi pensent qu'il y a création, donc on les appelle plutôt les partisans de la jeune Terre. Enfin, voilà, la jeune Terre, c'est-à-dire une Terre jeune, effectivement, et il y a des partisans de cette théorie-là. Et il faut bien dire qu'ils font beaucoup parler d'eux, puisque vous en avez sans doute entendu parler. Ils sont très critiqués, surtout en France hein, et en Europe, parce que c'est quand même une théorie qui est développée beaucoup dans certains milieux, on va dire, évangéliques aux États-Unis. Et on les appelle les créationnistes, et puis on se gausse de cette interprétation. Alors, bon, ils cherchent néanmoins à étayer leur hypothèse, leur proposition, leur interprétation par des études scientifiques, mais c'est vrai que leurs études portent surtout sur les failles, c'est-à-dire qu'ils cherchent les défauts des théories scientifiques actuelles, en particulier les défauts de la théorie de l'évolution. Alors, à certains moments, ils ont pointé juste, effectivement, mais bon, la théorie de l'évolution a beaucoup évolué, aussi, elle aussi, vous voyez, les théories scientifiques évoluent, bien sûr. Et donc, actuellement, il y a quand même très peu de scientifiques qui la contestent. Voilà. Donc, ces partisans-là, de cette interprétation, on va dire, littérale, les créationnistes, au fond, s'opposent à la grande majorité des scientifiques. Et d'ailleurs, le risque qu'ils prennent également, c'est de ne peut-être pas comprendre exactement quel est le message du texte. Voilà. Donc, je me permettrai effectivement de vous proposer une autre interprétation que celle-ci, mais il faut savoir qu'elle existe. Alors, la deuxième lecture qui m'a beaucoup, dans laquelle j'ai été élevé, au fond, moi-même, c'est la lecture qu'on qualifie de concordiste. Puisque Dieu a créé l'univers et puisqu'il a inspiré la Bible, il ne peut pas y avoir de contradiction entre les deux. Donc, il faut chercher les coïncidences, il faut chercher à faire concorder les théories scientifiques, ce qu'ont découvert les hommes par la méthode scientifique et le texte de la Genèse. Alors, c'est vrai qu'il y a des concordances, il y a des choses qui sont intéressantes dans ce texte. Le texte de la Genèse présente l'univers comme ayant une origine. Alors, il faut bien comprendre que ça, ça ne correspondait pas aux théories scientifiques du XVIIIe siècle, ni même du XIXe. À l'époque, on pensait que l'univers était, bon, plus ou moins éternel. Il n'y avait pas de raison qu'il y ait une origine, un démarrage quelque part. Et c'est seulement au début du XXe siècle que, suite à la relativité générale d'Einstein et un certain nombre de réflexions, que les scientifiques ont commencé à penser qu'il pouvait y avoir une origine à l'univers. Mais ça paraissait tellement extraordinaire, tellement bizarre, qu'on a appelé cette théorie, c'est la théorie du Big Bang. Et effectivement, on a gardé ce nom-là, alors qu'en fait, c'était un nom qui avait été donné par dérision à cette théorie de l'origine de l'univers. Et maintenant, très peu de scientifiques la contestent. On pense qu'effectivement, l'univers est né dans une gigantesque explosion qui a eu lieu, alors, selon la théorie, il y a environ 14,5 milliards d'années. Alors, cette théorie a été confirmée par un certain nombre de découvertes, entre autres la découverte du rayonnement fossile dont vous avez peut-être entendu parler en 1964, mais bien d'autres confirmations ont eu lieu également. Donc, effectivement, à l'origine de l'univers, Dieu créa, on peut penser qu'effectivement ça correspond tout à fait à la vision de ce texte de la Genèse. Et puis, Dieu dit que la lumière soit. C'est extraordinaire ce mot, cette phrase-là qu'on retient d'ailleurs, que les gens, dont les gens se souviennent, même s'ils ne connaissent pas la Bible, que la lumière soit. Puis la lumière fut, oui. Oui, mais enfin, si on y pense, au fond, la lumière c'est l'énergie. La lumière c'est l'énergie et effectivement, l'univers est né dans une énergie phénoménale. C'est l'énergie qui est la première. Que la lumière soit, que l'énergie soit, ça paraît tout à fait correspondre. Il faut bien comprendre que la matière n'est apparue qu'environ 300 000 ans après l'explosion originelle. Avant, la matière n'existait pas, la température était trop élevée, donc l'énergie s'est concrétisée, matérialisée seulement 300 000 ans après, quand la température a commencé à baisser. C'est là qu'il y a eu les premières paires de particules, etc. Donc effectivement, l'énergie première, que la lumière soit, pourquoi pas ? Et puis ensuite, vous le savez, c'est l'eau qui apparaît d'abord. Et puis, c'est la vie qui apparaît d'abord dans l'eau, puis ensuite sur la terre, etc. Donc, on peut considérer qu'effectivement, ce schéma évolutif, bon, on le distingue un petit peu dans ce texte de la Genèse. Alors, évidemment, il y a des difficultés, parce que ce texte ne parle pas de science, bien sûr. Et il y a, même au point de vue de l'étude textuelle, des difficultés qui sont difficiles à contourner. Alors, en particulier, vous l'avez sans doute noté, la lumière, que la lumière soit, premier jour, d'accord ? Oui, mais les luminaires, c'est-à-dire le soleil et la lune et le reste n'apparaissent qu'au quatrième jour. Donc, c'est un peu compliqué, la lumière existe avant le soleil, ok, bon, c'est un peu compliqué. Alors, il y a des interprétations, on essaie de contourner, mais ça reste quand même une difficulté au niveau de l'étude du texte. Et puis, il y a ce refrain, il y eut un soir, il y eut un matin, il y eut un soir, il y eut un matin. D'accord, oui, mais le soleil n'existait pas encore. Voilà, c'est un petit peu la même chose. Mais voilà, donc l'interprétation concordiste qui, au fond, peut se défendre à certains égards, reste quand même difficile à défendre sur le plan d'une étude du texte, d'une étude, on va dire, exégétique. Alors, il y a une autre interprétation qui, moi, m'a beaucoup séduit quand j'étais jeune étudiant, donc il y a bien longtemps, d'accord. Et vous avez peut-être entendu parler, vous aussi, si vous avez mon âge ou même peut-être un petit peu moins, d'un livre qui est apparu en France dans les années, à la fin des années 80. C'est le livre de Henri Blocher, de la faculté de Vaux-sur-Seine, qui s'appelle « Révélation des origines ». Au fond, cette interprétation, alors, on peut l'appeler interprétation littéraire, parce qu'elle cherche justement à comprendre vraiment ce que le texte veut dire. Alors, elle a été reprise, développée par Mathieu Richel, donc qui fait partie de notre communauté. Il n'est pas là ce matin, je l'ai vu hier. Hier, il nous a parlé dans une belle conférence du déluge, un autre thème évidemment passionnant. Et donc, je vous recommande le livre de Mathieu Richel. Il a écrit un livre dans lequel il fait des commentaires de Genèse 1 à 11. Bon, c'est évidemment très, très intéressant. Donc, je me suis beaucoup inspiré de Henri Blocher, de Mathieu Richel, pour préparer cette prédication. Alors, ça consiste en quoi ? Mais ça consiste en deux choses. D'abord, chercher à étudier le texte, c'est ce que font nos théologiens, hein, en lui-même, c'est-à-dire de chercher les indices qui sont dans le texte lui-même, sans forcément vouloir plaquer des choses qui viennent d'ailleurs, voilà, ou nos présupposés. Et puis la deuxième chose, c'est le placer dans son contexte historique et se dire, mais au fond, les premiers auditeurs, qu'est-ce qu'ils pouvaient en comprendre ? Parce que ce texte s'adressait aussi à eux. Il y a le développement scientifique et puis chaque société vit dans un contexte différent. Oui, mais le texte, il s'adresse à tous. Donc, qu'est-ce qu'il y a de commun ? Qu'est-ce qu'on peut comprendre ? Et qu'est-ce que, justement, les premiers auditeurs ont pu comprendre de ce texte par rapport à l'environnement dans lequel ils vivaient ? Alors, donc, il y a l'étude du style du texte, déjà, et de sa structure. Alors, dans le style du texte, vous savez, quand on prend la Bible, justement, on se pose des questions comme, tiens, quel est le type de ce texte ? Est-ce que c'est un texte poétique, comme les psaumes, par exemple ? Ou est-ce que c'est un texte de loi ? Comme les textes qu'on trouve dans Lévitique ou Deutéronome, certains textes de l'Exode. Est-ce que c'est un texte à caractère historique ? Donc voilà les questions qu'on peut se poser. Et puis, il semble que ce texte-là, Mathieu Richel le définit comme ça, serait semi-poétique. Voilà, semi-poétique. Pourquoi ? Parce qu'on y trouve des répétitions. On y trouve des refrains. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. On y trouve des parallélismes. Qu'il y ait de la lumière, il y eut de la lumière. Et puis, il y a aussi des jeux de mots. Et puis, il y a des jeux numériques. Alors, Mathieu s'est amusé à compter le nombre de mots. Mais c'est extraordinaire, hein. Ça, je n'ai pas le temps de vous en parler, évidemment, il faut le lire. Le nombre de mots dans chaque section. C'est des choses qui sont passionnantes et que nous ne faisons que découvrir quand on n'est pas spécialiste. Alors, la structure de ce texte. Ce texte apparaît comme un tableau, et c'est là qu'on va montrer la diapositive, qui correspond effectivement à cette analyse qui me paraît si pertinente. Au fond, dans les premiers jours, vous voyez la colonne de gauche, dans les premiers jours, jour 1, jour 2, jour 3, on voit se produire la séparation des espaces de vie. Alors, il y a lumière qui est opposée aux ténèbres, qui correspond au jour 1. Le jour 2, c'est la séparation des eaux en deux masses, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, séparées par une étendue, qu'on va appeler ciel. Et puis le jour 3, il y a séparation des océans et des continents, des mers et du sec, que le sec paraisse. Donc effectivement, quand on regarde notre globe, on s'aperçoit qu'il y a effectivement beaucoup plus d'océans en surface que de terres immergées, voilà, mais il y a cette séparation, le sec qui paraît. Et alors les quatre jours suivants correspondent un petit peu à l'occupation de ces espaces qui ont été créés. Ça paraît tout à fait évident. Par rapport à la lumière qui est opposée donc aux ténèbres, il y a les luminaires qui correspondent à la lumière. Alors là, il faudrait voir un peu plus dans le détail, mais il y a les luminaires qui correspondent à la lumière au jour 1, dans le jour 4. Le jour 5, c'est les animaux qui occupent à la fois les océans et aussi le ciel, les animaux marins et les animaux volants. Et puis après, effectivement, au jour 6, vous avez la correspondance avec le jour 3. Le jour 3, c'est le sec qui paraît. Et au jour 6, vous avez l'apparition des animaux terrestres et des hommes, des êtres humains. Alors, cette association donc, des jours, le jour 1 avec le 3, le 2 avec le 4, le 3 avec le 6, sont effectivement paraissent très pertinents. Mais il faut les débattre plus en détail, parce que ça ne colle pas exactement, mais ils sont confirmés, néanmoins, par une étude précise de la répétition d'un certain nombre de mots. Dans les jours 1 et 4, vous avez le mot « lumière » et les mots « luminaire » qui reviennent de façon fréquente. Les jours 2 et 5, c'est le mot « eau » et « étendu ». Étendue ciel. Et dans les jours 3 et 6, vous avez le mot terre qu'on retrouve dans le jour 3 et beaucoup dans le jour 6. Donc au fond, ce texte-là, du chapitre 1 de la Genèse, de par sa structure et par son style, présente l'apparition de l'univers, mais pas de façon scientifique, ce n'est pas l'objet, mais de façon néanmoins organisée et logique. On pourrait dire qu'au fond, c'est le plan d'un auteur qui souhaite présenter les choses de façon pédagogique, en expliquant comment Dieu a structuré les choses. Il est aussi intéressant de comparer ce texte avec les textes anciens. Les textes anciens qu'on appelle parfois cosmogonie chez les Mésopotamiens ou chez les Égyptiens. Et là, on s'aperçoit que ce texte reprend des choses qui existent déjà. Il y a bien sûr des comparaisons intéressantes et tout à fait fructueuses à faire avec d'autres textes, parce qu'il y a des correspondances et puis il y a des choses qui sont radicalement différentes. Les cosmogonies de l'époque sont reprises dans le texte de la Genèse, en partie, mais pour faire passer un message essentiel, qui est celui du Dieu unique, du Dieu transcendant. Alors, on va revenir au message qui est transmis, au message fort qui est transmis par ce texte. Je voudrais faire une petite précision sur cette présentation en 7 jours qui reste peut-être quand même troublante, mais au fond, est-ce qu'elle n'a pas aussi une autre intention pour nous? Qu'est-ce que ça veut dire que le 7e jour, Dieu se repose de son travail? Est-ce que vraiment Dieu a besoin de se reposer? Là, on se dit, tiens, c'est bizarre. Bon, puis alors, c'est vrai que ce jour, évidemment, il n'est pas terminé. Hein. Ce jour, c'est toute l'époque, c'est l'époque que nous vivons actuellement, puisqu'il n'est pas terminé par « il y eut un soir, il y eut un matin ». Nous vivons dans le 7e jour de Dieu. Alors, Dieu se repose le 7e jour. Ben, là, on se dit quand même, pourquoi pas penser à la révélation qui se poursuit dans le livre de l'Exode, quand justement, on demande au peuple d'Israël de respecter les jours de la semaine et de respecter ce 7e jour où Dieu s'est reposé de toutes ses œuvres. C'est-à-dire qu'au fond, cette présentation, on pourrait penser que ça correspond au travail d'un artisan qui travaille 6 jours et qui se repose le 7e. Et au fond, c'est une invitation pour nous, pour les hommes, à faire de même. La présentation de l'œuvre de Dieu serait comme un enseignement à reprendre pour nous-mêmes. Et cet enseignement, effectivement, a été repris dans l'île de l'Exode et dans ce qu'on appelle le décalogue, dans les 10 commandements. Donc voilà, c'est une façon aussi de comprendre cette présentation en 7 jours. Alors, le but fondamental de l'auteur, inspiré par le Saint-Esprit, ce n'est pas de nous livrer un traité de science. Alors c'est quoi? Et pourquoi ce texte est toujours aussi actuel? Alors qu'on pourrait penser que, voilà, c'est un texte ancien, etc., il n'a plus rien à nous dire. Au contraire. Comme j'ai commencé à le dire, d'abord, c'est l'affirmation d'un Dieu unique. D'un Dieu unique et d'un Dieu séparé de la matière. Et ça, c'est quelque chose de révolutionnaire, mais qu'on a du mal à imaginer de nos jours, évidemment, parce que vous avez quand même lu des mythologies, vous savez qu'à l'époque, on ne pensait pas du tout pareil. Alors, en particulier, on peut effectivement penser à la cosmogonie assyrienne, un texte effectivement qui est cité par Mathieu Richel et que vous pouvez trouver ailleurs, bien sûr, en présentant l'origine de l'univers comme un combat titanesque entre des dieux, et que le monde résulte au fond d'une partie du corps d'un dieu qui a été tué par un autre dieu. Donc le ciel, c'est le corps du dieu qui a été massacré par l'autre. C'est une présentation qui n'a rien à voir. Et au fond, c'est une présentation qui maintient le lien entre Dieu et la matière. C'est une présentation très panthéiste, si on veut. Alors que dans le texte de la Genèse, au fond, on introduit une distinction radicale. Au commencement, Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que ce commencement pour notre Bible ? Au commencement, Dieu. Voilà. Et ça, ça a des conséquences phénoménales. Ce n'est pas au commencement l'homme, c'est au commencement Dieu. Voilà. Dieu créa. Et Dieu crée le ciel et la terre. Il y a une distinction radicale entre ce Dieu-là, le Dieu qui est au-dessus de tout, et la partie créée, la matière, l'univers lui-même. Dieu est en dehors de ça. C'est lui qui crée. C'est la cause première. Ça, c'est le premier message. Et d'ailleurs, dans ce monde donc, d'autrefois, de cette époque-là, au fond, chaque élément était sacralisé. C'est très intéressant de voir que dans le jour où les luminaires apparaissent, ils ne sont même pas mentionnés. Ça, c'est fascinant, ça. Comment voulez-vous désigner le grand luminaire autrement que par le mot « soleil » ? Non, mais vous auriez imaginé de dire autre chose que le mot « soleil » ? Ben, il créa le soleil, voilà, ok. Et puis il créa la lune, ça on comprendrait. Mais comment est-ce qu'on comprend que l'auteur utilise le mot « le grand » pour présider au jour et le petit pour présider à la nuit ? Mais il ne sait pas comment ça s'appelle, le soleil. Mais si, ça s'appelle Ré. Ré, par exemple, chez les Égyptiens, ça s'appelle Apollon, chez les Grecs. Donc voilà, il y avait des noms. Mais justement, l'auteur ne veut pas prendre ces noms. Et il ne prend même pas le nom soleil, le nom commun, parce qu'il ne veut pas qu'il y ait de confusion entre Dieu, tous ces dieux-là, le panthéon de dieux qui existait à l'époque, et le Dieu unique qui crée. C'est ça la différence essentielle. Et donc, il prend la peine de le désigner par un mot commun qui ne pourra pas prêter à confusion. C'est le grand luminaire et le petit luminaire. C'est tout. Ce sont des astres créés, ce sont des objets créés, comme le reste de la création. Une façon impersonnelle de nommer les choses pour bien montrer que ce ne sont pas des dieux. Donc, c'est vrai que ce texte-là désacralise complètement la nature, par rapport à un contexte complètement polythéiste. Il proclame avec force la transcendance de Dieu et la différence radicale entre le créé et l'incréé. Alors, deuxième message important, évidemment tellement beau pour nous, le monde résulte d'un projet. Il n'est pas là par hasard. Et par conséquent, nous ne sommes pas là par hasard non plus. Ce monde est advenu, apparaît par la volonté d'un Dieu créateur. Ce monde est le résultat de l'intention du projet de Dieu. Genèse 1, ce chapitre-là, au fond, est un hymne à l'harmonie du monde. Et l'harmonie du monde, de l'univers, ici, est expliquée par le fait qu'il est issu de l'intelligence du Dieu créateur. Il n'y a sans doute pas de meilleure explication au fait que le monde est intelligible. C'est de dire qu'une intelligence supérieure est à l'origine. Les lois de la physique, la régularité des phénomènes témoignent, au fond, si on y réfléchit bien, de l'origine divine de notre monde, plutôt que d'une apparition par hasard de tout cela. La Genèse ne va pas répondre à des questions scientifiques. Elle n'est pas un traité de science. Mais elle répond, comme le reste de la Bible, à la question du pourquoi ce monde existe. Pourquoi ce monde existe et pourquoi on peut le comprendre de façon intelligente, rationnelle, avec des équations mathématiques. Pourquoi est-ce qu'on peut le comprendre, ce monde ? Ben, c'est sans doute parce qu'il y a à l'origine quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui l'a amené à l'existence. En plus, ce texte parle de l'excellence de la création. À partir du jour 3, c'était pas vrai au jour 1 et 2, mais à partir du jour 3, il y a la mention « Dieu vit que cela était bon ». Et à la fin des 6 jours de création, « Dieu vit que cela a été très bon ». La matière, le monde matériel, est inclus dans ce jugement positif de l'œuvre de création. La matière n'est pas déconsidérée, contrairement à ce que font certaines philosophies. Alors, il faut bien savoir quand même que ce texte est complété par la chute de Genèse 3 et qui explique justement que ce monde ne soit pas si beau que ce qu'on aimerait et pas aussi beau que la façon dont il a été conçu au départ. Alors, le troisième et dernier message que je reprendrai, mais il y en a certainement beaucoup d'autres, c'est que l'être humain est une créature de Dieu. L'être humain est une créature de Dieu. Oui, ce n'est qu'une créature, d'accord. Mais c'est une créature de Dieu et il est créé en image de Dieu. Là aussi, il y a beaucoup de choses à dire, mais évidemment, je ne ferai que quelques remarques. Il s'agit de recevoir l'existence, notre existence aussi, comme un cadeau de Dieu. Notre existence est voulue par Dieu, cela lui donne toute sa valeur. Mais ça lui donne aussi ses limites, parce que ça nous place sous l'autorité du Dieu créateur. En cela, nous sépare aussi des animaux. Juste une mention à propos des animaux. Ce n'est pas notre génome qui fait qu'on est différent des animaux. Pas seulement notre génome, vous savez, on en parle beaucoup du génome. Ah oui, on a 95% du génome qui est celui du chimpanzé untel, et 80% de celui de la mouche. Voilà, tout ça, c'est intéressant, bien sûr. Il faut continuer à étudier tout ça. C'est sans doute pas ça qui nous distingue radicalement des animaux. C'est sans doute ce que le texte affirme, que nous sommes image de Dieu. Et ce n'est que cette créature-là qui est créée en image de Dieu. Ça change tout, ça. Même si on ne sait pas où chercher justement cet esprit-là. Voilà, et ça, les neurosciences ont encore beaucoup de travail à faire pour essayer de comprendre où est l'image de Dieu. Oui, elle n'est sans doute pas là. Il y a un saut qualitatif entre l'homme et les animaux. Vous savez, toutes les théories qui circulent de nos jours montrent bien que l'homme a perdu tout repère, toute référence. On est en train de chercher à savoir si les animaux ont des droits. Voilà, pourquoi pas faire des lois concernant les animaux, etc. D'accord, oui, ok, on essaie de gommer les différences entre nous et les autres espèces vivantes. Pourquoi est-ce qu'on aurait plus de droits qu'eux, etc. Il y a des tas de théories qui circulent. L'homme a vraiment perdu la tête. Mais c'est normal. Parce que l'homme n'a plus de référence. Il n'a plus de référence. À partir du moment où l'homme est livré à lui-même, il n'est plus une créature. Il est, bon, le créateur, on ne va peut-être pas aller jusque-là, mais sa propre référence. L'homme est devenu sa propre référence. Comment voulez-vous que ça avance ? Ça ne peut pas marcher. Nous avons besoin de référence. Alors, ça ne nous autorise pas du tout à user de notre pouvoir pour maltraiter les animaux, les autres créatures, pas du tout. L'idée de la domination, on l'a critiquée parfois, dominer le monde, c'est-à-dire gérer la création. Oui, mais comment est-ce que Dieu domine le monde ? Si nous sommes en image de Dieu, faisons comme Dieu. Il domine le monde avec bienveillance. Et ces créatures, on le voit dans certains textes, certains psaumes, il les traite avec bienveillance. Voilà, il donne à chacun sa nourriture en son temps, dit un psaume. Donc, nous n'avons pas exploité la création, à exploiter les créatures et à maltraiter les animaux. Non, pas du tout. Nous devons faire comme Dieu fait avec nous. Alors, cette dépendance vis-à-vis de Dieu, j'ai parlé des animaux, mais c'est beaucoup plus important de la considérer vis-à-vis de nos semblables, bien sûr. Et là, c'est tout le domaine de la morale, du comportement humain et de l'éthique. Quelle autre base pouvons-nous trouver si nous ne croyons pas en Dieu, si nous n'avons pas de référence à Dieu? Quelle autre base pouvons-nous trouver pour la morale et pour l'éthique? Les philosophes réfléchissent dans toutes les directions, mais ils ont du mal à trouver. Il y a de très belles pages écrites par Luc Ferry dans un de ses livres où il cherche justement à trouver une solution parce qu'il sait que sans Dieu, il n'y a plus de référence, c'est très compliqué. Alors il essaye de trouver une notion qu'il appelle l'homme-Dieu. Voilà, mais c'est compliqué pour eux, effectivement. C'est très difficile d'éliminer Dieu de notre schéma de pensée. Et effectivement, l'homme est créature de Dieu. Sa référence, ce n'est pas lui-même, c'est quelqu'un d'autre. Et ça l'amène à avoir un autre regard, à la fois sur la création, sur l'univers, mais aussi sur ses semblables, bien sûr. Alors voilà, je voudrais terminer là. Et dans cette conclusion, simplement dire que voilà, l'important, quand on ouvre un texte de la Bible, et c'est sans doute vrai pour tous les textes, ici, c'est pas de chercher à tout prix à faire coïncider le texte avec ce qu'on pense déjà ou avec nos propres a priori. Ici, ce seraient les théories scientifiques actuelles. Mais ce serait très risqué. Ce serait très risqué parce que, pour au moins une bonne raison, je pense, c'est que les théories scientifiques ne sont pas définitives non plus. Et évidemment, au cours des siècles, on a maints exemples de la chose. Évidemment, les théories scientifiques ne sont pas une vérité absolue. Ce sont des théories qui sont amenées à évoluer en permanence. Alors, si à chaque génération, on veut faire coïncider nos textes avec des théories qui vont éventuellement évoluer plus tard, c'est toujours très gênant. Il ne faut pas courir après. Donc, l'idée du concordisme qui m'avait séduit a priori, c'est sans doute pas une bonne façon de comprendre ce texte de la Genèse. Je pense qu'il y a aussi l'idée que notre lecture de la Bible évolue forcément en fonction de l'évolution des connaissances et en fonction aussi des découvertes archéologiques ou des découvertes, on va dire, exégétiques, de références à d'autres textes. Donc voilà, il n'y a pas de façon définitive. On ne lit pas forcément les choses exactement de la même façon qu'il y a quelques siècles, bien sûr. C'est des choses qui peuvent évoluer. Alors, réfléchissons à la relation, au rapport entre science et foi, non pas en termes de confrontation, mais plutôt en termes de complémentarité. Au fond, c'est quand même deux visions du monde, et elles sont, à mon avis, plutôt complémentaires. Bien sûr, quand on fait des sciences, quand on fait de la recherche scientifique, on n'a pas besoin de l'hypothèse Dieu. Non, on étudie des lois. Et effectivement, on cherche à interpréter les phénomènes. C'est tout à fait normal. Ça ne nous donne pas la réalité dans sa globalité. Ça nous permet de décrire le fonctionnement de notre univers. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe rien en dehors de ça. Et justement, l'apport de la parole de Dieu, c'est un apport qu'il faut considérer comme complémentaire parce que la science, comme je l'ai dit plusieurs fois maintenant, ne nous permet pas d'accéder à tout et en particulier à savoir, à pouvoir répondre au pourquoi, comment répondre au sens de la vie, comment savoir comment vivre dans notre monde et avec nos semblables. Donc faisons confiance au texte de la parole que nous avons reçu et continuons à les sonder, à les étudier avec passion, comme nous y invitent tous nos théologiens et nos exégètes. Merci en tous les cas à eux. Je remercie effectivement Mathieu Richel pour tout ce qu'il m'a apporté, ainsi qu'Henri Blocher et beaucoup d'autres. Et rendons grâce au Seigneur pour la façon dont il sait nous conduire, dont il sait conduire son Église. Amen.